say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
Et oui, bienvenue dans votre émission Bang Geek Mafia, votre émission qui a lieu une fois tous les 15 jours, semaine paire, si je ne me trompe pas.
Les semaines paires, c'est ça.
Semaine paire. Donc, salut Pablo.
Hey, salut Seb.
Salut.
Ça va.
Ouais, bah écoute,
et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Et on salue aussi Seb et Anaïs qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'on salue chaleureusement. Et on va se passer peut-être un petit morceau de musique là.
Oui, c'est pour commencer. Donc, c'est Momo à la technique. Donc on va un petit peu cafouiller. On va y arriver. Un petit peu de musique. T'as quoi ? Qu'est-ce que tu nous proposes éventuellement dans les chansons ?
Ouais.
Allez, je vais en prendre une comme ça au hasard.
Dis-moi laquelle.
Oh, un petit Pink Floyd, Another Breaking the World.
Ah oh bah allez, c'est cool.
Hein, c'est cool. C'est calme. Et bah voilà, on va commencer.
C'est parti.
Vous
êtes dans Bang Geek Mafia, 101.5.
La radio qui fait le point. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais non, mais c'est pas possible. Eh bah si.
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est le texte.
D'accord, alors attends.
Alors, on est parti. On est parti là-dessus. Là, je sens qu'on est parti sur une bonne émission.
Oui,
quand même.
Alors,
on est bon.
Alors, il faut que tu ailles dans Zik.
Zik. Hop. Zik où ?
Alors, tu reviens en arrière dans émission.
Émission.
Émission du jour,
tout à fait.
Et donc le 23-02.
Oui.
Voilà, on est en direct là.
On est en direct. Et ben finalement, je vais trouver autre chose. Je vais prendre Dépêche Mode et puis je vais rechercher.
Un petit Dépêche Mode.
Voilà.
Ouais, super.
Tranquillement. On va y arriver, pas de panique.
Enjoy the silence. Sur Bandic Mafia.
Thank you. Pepsi bottle and Princess Leia on Coke. But don't you get hooked up. Save the chinchilla monkeys and throw away that burger. Cause it's the little decisions that count. This is Roger Fogarty and you're listening to Creature Shock Radio FM.
Pas mal celui-là. Hein.
Top générique. Bah alors du coup Seb, de quoi on va parler aujourd'hui?
Alors donc déjà on va dire qu'on va rappeler qu'on avait écouté Enjoy the Silence.
Eh oui, Enjoy the Silence.
De Depeche Mode.
Depeche Mode, évidemment.
Évidemment.
C'était magnifique,
ça faisait du bien.
Ça faisait plaisir.
Et puis bah donc de quoi on va parler? Bah on va parler comme d'habitude de tout ce qui nous plaît, à savoir du cinéma.
Voilà, de cinéma, de
série.
Alors cinéma, on va présenter deux films, hein, Ouistreham et puis Mort sur le Nil.
D'accord.
De série, je vais présenter la série True Detective saison 3.
D'accord, ok,
et
pas de problème.
Je crois que t'as des BD.
Bon, alors j'ai pas des BD, j'ai une BD. Cette fois-ci, j'ai été soft. Hein, je me suis dit, on va recommencer soft un petit peu parce que ça fait un petit peu longtemps que j'étais pas venu. Hein, donc d'ailleurs, coucou les auditeurs. Ça s'entend aussi un petit peu sur la technique, mais bon, hein, quand on va essayer de faire les choses bien comme il faut. Une bande dessinée, ensuite un livre, je vais vous présenter un livre moi, que j'ai adoré, bien sûr, que j'ai lu très rapidement.
Un livre historique,
bien sûr, mais on se doute bien.
Évidemment.
Évidemment.
Moi, je présenterai un polar, évidemment, aussi.
Aussi, voilà, et puis le tout entrecoupé de bonne musique, en espérant que tout fonctionne bien,
voilà,
et donc il n'y a pas de soucis.
Ça va le faire. C'est parti pour le ciné.
Alors, je t'ai pas préparé le petit jingle pour
c'est
le
pas grave, c'est pas grave. Y aller. Ouais. Bah écoute, on va commencer par Mort sur le Nil.
Ah.
Donc, si tu veux bien aussi nous passer la petite musique,
la petite qui va
avec. Musique qui
va bien.
Alors écoute.
Alors attends, bouge pas, je vais chercher
ça. C'est aussi un Depeche Mode, tu vas voir. Donc, je vous propose. Alors, Mort sur le Nil, en fait, de Kenneth Branagh. D'accord, qui est actuellement à l'affiche. Je vous lis actuellement le synopsis. Okay. Après l'enquête de l'Orient Express, le célèbre détective privé belge Hercule Poirot doit enquêter sur un meurtre perpétré à bord d'un navire de croisière. En effet, la riche et belle héritière Lynette Ridgeway s'éprend de Simon Doyle, le fiancé de sa meilleure amie. Et oui, c'est là que ça se complique. Jacqueline de Belfort. Et l'épouse dans la foulée. Partis en voyage de noces, les jeunes mariés sont poursuivis par la jeune femme délaissée, dans leurs étapes successives jusqu'en Égypte, où ils séjournent dans un hôtel où se trouve également Poirot, qui pressent une situation dramatique. Tiens. Ce dernier, les jeunes mariés et leurs poursuivantes, ainsi que divers clients aisés de l'hôtel, se retrouvent fortuitement pour faire une croisière à bord du vapeur SS Carmack. Jusqu'au jour où Lynette est retrouvée assassinée. La suspecte la plus probable, Jacqueline, qui nourrissait une grande haine envers celle-ci, est pourtant une des seules personnes à avoir un alibi inattaquable. Mais Hercule Poirot n'est pas dupe et ses cellules grises vont mettre à mal tous les alibis et révéler une machination diabolique. Bon, écoutez, Mort sur le Nil est une suite sans en être réellement une du crime de l'Orient Express sorti en 2017. Ce film propose un schéma quasi similaire au premier, mais le même détective en avant, prêt à résoudre un meurtre dans un décor exotique au fin fond de l'Égypte, autour d'un casting étoilé. Les décors sont magnifiques, l'Égypte reconstituée, les pyramides gigantesques sur grand écran, un beau spectacle, un bateau-palace sur le Nil, des robes et des costumes de la belle époque, certes. Le film de Kenneth Branagh est bien plus qu'une suite, puisqu'il nous donne davantage d'informations sur la naissance du personnage d'Hercule Poirot et sur son passé, qui continue de le tourmenter via des détails glissés dans certaines scènes, mais surtout grâce à une introduction d'une dizaine de minutes justifiant assez honteusement, j'ai trouvé, hein, la raison pour laquelle Poirot porte la moustache. Oui. L'une des forces du film sont les efforts de Branagh pour donner plus de profondeur à un personnage dont on est beaucoup à n'en connaître que très peu. Mais bon, on reste un peu sur notre faim. Comme l'opus précédent, le réalisateur et acteur signe un film grand public qui vaut plus pour ses effets spéciaux et le scénario, scénario d'Agatha Christie bien sûr, mais pas pour son jeu d'acteur qui est fade. Y compris Kenneth Branagh lui-même joue sans émotion, effectivement, et fait un Hercule Poirot assez antipathique, sans relief, qui ne parvient pas à nous toucher. Bref, un beau décor froid.
Je vous propose, voilà.
Alors donc, au final, si j'ai bien suivi, de toute façon, l'assassin, c'est dans la bibliothèque, voilà. Avec le chandelier, et c'est le colonel Moutarde.
Et le colonel Moutarde, exactement.
Voilà, là, on est bien d'accord.
Pourtant, c'est un grand classique.
Oui, mais je connais un mec classique, mais c'est aussi un grand classique, quand même, Mort sur le Nil.
Ouais, carrément. Mais justement, tu vois, je trouve qu'il aurait pu essayer de nous surprendre un petit peu, Kenneth Branagh, et malheureusement, je trouve qu'il reste assez fade, assez terne. Il fait du grand spectacle, mais très lisse. À bon prix, quoi, moi je trouve.
Oui, il est dans la facilité, quoi, ouais. Au final. Il est dans la facilité.
Ouais, je trouve aussi.
C'est voilà. Un petit peu dommage. Bon,
ouais,
bah.
clairement. Écoute, je te propose de passer à l'autre film, par contre, qui est vraiment magnifique. Donc, tout de suite, on n'a qu'à passer une bande-annonce, Wistreham d'Emmanuel Carrère.
D'accord.
Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler, quand vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité, d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, voir ce qui se passe vraiment.
Ah, c'est vous la remplaçante? Faudra vous fouler plus que l'autre, hein.
Ferry, c'est opération commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Pays au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas.
Tu gagnes au loto, tu fais quoi?
Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage.
Nettoyage! Allez, on se dépêche, la pluie!
Tu vas me passer ta vie sur le ferry.
Non, mais j'espère. J'espère aussi partir loin.
Pourquoi tu passes par là, c'est pas la route? J'ai pas le temps d'aller regarder la mer, là.
Ah, on prend, là, le temps.
Les invisibles, je vais les rendre visibles.
Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année? C'est toi.
Alors, je vous lis le synopsis. Marianne Winkler se glisse incognito dans une équipe de femmes de ménage qui récurent en 4 minutes chrono chacune les 230 cabines d'un ferry reliant Wistreham à Portsmouth, en Angleterre. Elle astique les toilettes, fait les lits à la chaîne, comme tout le monde, sauf qu'elle n'est pas femme de ménage, mais écrivaine. Elle a choisi de vivre la vie des précaires qui courent après les heures de ménage, sujet de son prochain livre. Au fil de son immersion, elle noue des liens chaleureux avec ses compagnes de galère. De l'entraide naît l'amitié, de l'amitié la confiance. Mais que devient cette confiance quand éclate l'imposture? Eh oui, donc Wistreham est une adaptation libre du livre Quai de Wistreham de Florence Aubenas. À cette histoire véridique très fouillée, Emmanuel Carrère ajoute du romanesque, avec un regard bienveillant, et met en scène des actrices non professionnelles lumineuses. La force du film, c'est le sujet, mais aussi le rapport entre Juliette Binoche et les actrices. Un film social lumineux. La plupart des actrices sont non professionnelles. Je cite « C'est la seule condition que j'ai mise », dit Emmanuel Carrère. Il poursuit « Mais tout le monde était d'accord. Je pense que si le film a une qualité, c'est l'interprétation, c'est la rencontre entre Juliette Binoche et ces femmes non professionnelles. » Le film montre en effet le travail de femmes de nuit sur le ferry de la côte de Nacre. Pardon. Hélène Lambert, qui interprète Christelle dans le film, dit, « Il faut que les sociétés fassent en sorte qu'on ne soit plus invisible. Si nous ne sommes pas là, vos bureaux ne sont pas propres. Donc on peut travailler ensemble et pas forcément la nuit. Ce n'est pas une honte ni une insulte d'être agent d'entretien. Il faut que les entreprises se réveillent. » Fermez les guillemets. Évidemment, Juliette Binoche est splendide et toujours aussi touchante. Cependant, il faut reconnaître qu'Hélène Lambert est la vraie héroïne du film. Un diamant brut qui vous pète à la gueule, dans sa vérité, son authenticité, son humanité. avec sa générosité, un courage sans faille, sa fierté et sa colère aussi. Donc allez voir Ouistreham, qui vous tient en haleine tout du long, comme un polar d'ailleurs, car on se demande quand est-ce que cette imposture, l'imposture de Marianne Vinclair, va être découverte. Et on se demande aussi une deuxième question, qu'on se pose, il me semble, tout au long du film. A-t-elle raison de faire cela ? De prendre la place d'un agent d'entretien, de plonger, de tromper son entourage pour s'immerger et témoigner du quotidien de ces personnes. Bref, allez le voir, Ouistreham, une belle émotion solidaire qui fait du bien. Merci de votre écoute.
Eh bien, ça a l'air pas mal tout ça. Ouais, donc, deux films à voir, ouais, Mort sur le Nil. Enfin bref.
Oui, Mort sur le Nil.
Mort sur le
de
Nil.
Kenneth Branagh, bon, pour vraiment pour passer un moment au grand spectacle, bon voilà, sans en attendre trop, d'accord. Et puis, par contre, Ouistreham, une vraie émotion, un vrai beau film social.
D'accord. Alors moi, je te propose de continuer par un petit morceau de musique
avec
qu'on
plaisir.
Avait annoncé au tout début, là, puisqu'on a un petit peu loupé.
Oui, tu veux parler de Pink Floyd ?
Oui, voilà, exactement.
Another Brick in the Wall, dans Bang Mafia.
Oui. Oui, sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Yes.
Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one tree. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Just a brick in the wall.
voilà, ça fait du bien. On a cassé le mur, hein, finalement, le mur du silence aussi en même temps.
Exact. Et le mur du son.
Et le mur du son, on l'a traversé largement, largement, largement.
Another break in the wall, donc. Hein.
Yes.
C'était sympa.
Ah, ça c'est sympa. Ça c'est.
En plus, en version, version un peu longue et.
Ouais. Celle-là, j'ai. Sympa. Je l'aime bien. Je suis fan. Un petit générique.
Yes.
Hop. Well, if you give me a chance, I was going to call you a crazy pig fucking dumbass pussy piece of shit.
Oh, brother, you're a dead man.
Il est terrible.
Il est terrible. Tout ça pour vous annoncer quand même une bande dessinée, puisque bah, c'est.
Mais alors oui. Hein, qu'as-tu dans ton panier?
Bah, j'ai dans mon panier, bah, j'ai celle-là. J'ai de Book Junker aux éditions Le Lombard, un général, des généraux. Eh bien, nous sommes en 1958. La France est embourbée en pleine guerre d'Algérie, tandis que Paris voit sa colonie lui glisser entre les doigts. À Alger, des généraux dépassés par une population en ébullition ont une idée lumineuse. Tiens. Et pourquoi pas un coup d'État ? Pourquoi pas,
comme ça.
Alors, découvrez l'histoire de la seule véritable révolution de l'après-guerre, celle qui va ramener le général de Gaulle et sa 5e République au pouvoir mai 58. Pour cette fois-ci, promis, il leur a bien assuré à tous, il les a compris. Référence à « Je vous ai compris oui. ». Donc voilà. Alors la bande dessinée, moi je l'ai prise en version collector un petit peu noir et blanc parce que moi je trouve que c'était mieux qu'en couleur. Bon, certains vont préférer la couleur, mais moi j'avoue que j'aime bien. Et puis au final, donc on a un récit historique qui voilà qui est assez proche. C'est sympa, mais là on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de dérision parce que les généraux justement qui se retrouvent en Algérie sont dépeints d'une manière, mais Ça fait peur.
Ah oui.
Ça fait peur.
Ah ouais, ouais.
Je sais pas. Là, par hasard, là, je tombe sur la page 77. En pleine discussion, les généraux ne savent pas ce qu'il faut faire. Éventuellement, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et là, il y a un des généraux qui dit, que proposez-vous à l'art? Un débarquement. Un débarquement. Et où ça? En Normandie, vous êtes fous? Mais non, en Provence, comme en 44, ou en Napoléon, en 1815. Nous allons d'ici remonter les routes de France. La foule en délire, grossissant autour de nous. Et 15 jours plus tard, nous arrivons à Paris, triomphants, libérateurs. Donc voilà, ce n'est que ça. Là, on a l'impression il y a un petit grain de folie quand même.
Un petit grain de folie. Des baltringues pas très sympathiques.
Ouais, des baltringues pas très sympathiques. En clair, on a l'impression de revoir. Un peu les tontons flingueurs quoi, mais version animée,
pas mal.
Sur un fond historique qui est pas mal et voilà quoi. Donc du coup on passe un bon moment, c'est assez génial. Surtout ce qui est assez comique, c'est que pendant une grande partie aussi de la bande dessinée, donc on a le personnage de De Gaulle qui apparaît de temps en temps, qui ne dit strictement rien, voilà, qui vit sa vie bien tranquillement à Colombey-les-Églises, qui promène son chien, qui joue avec Médor. Et puis au même moment, on a le parallèle avec ce qui se passe de l'autre côté, où ça se tend un petit peu. Quoi. Donc,
lui prépare son coup, il attend que ça se passe.
Il attend que ça se passe. Et puis cette bande dessinée, elle est bien faite parce que ça se termine aussi par un petit cahier assez sympa qui explique un petit peu le changement donc de régime, l'instauration de cette 5e République. Donc on a une petite synthèse historique qui est pas mal. Voilà quoi, en clair, moi je vous le conseille si vous voulez vous poiler. C'est un bel objet.
Ouais, je le vois là, c'est sympa quoi.
J'ai une belle bande dessinée, bien sympathique, grand format. Moi j'ai bien apprécié quoi. Franchement, là on rigole quoi. Ouais. Disons que voilà, on n'est pas là. Ah mon dieu, mais que se passe-t-il? Mais non, là on rigole un grand coup. Cool. Donc voilà, un général des généraux, Book et Junker aux éditions Le Lombard.
Et ben génial,
voilà,
trop bien.
Et j'ai pas d'autres bandes dessinées.
Après, on a des romans.
On a des romans.
Mais on a peut-être une petite musique.
Une petite musique.
C'est maintenant. Là.
Alors, qu'est-ce que tu voudrais comme petite musique? Dis-moi voir.
Eh bien, écoute, si on pouvait se passer The Strokes, une petite dédicace à Sarah.
The Strokes, Why Are Sunday, c'est ça?
Ouais, so depressing. Eh bien, oui, ça, c'est quelque chose qu'on se dit souvent d'ailleurs. Pourquoi les dimanches sont si déprimants? Il pose la question.
Apporte-t-il une réponse toujours dans Bang Geek Mafia?
Alors on va écouter ça sur Radio G 101.5, les gars.
La radio qui fait le point.
donc c'était The Strokes, Why Are Sundays So Depressing. Effectivement, de l'album The New Abnormal, sorti en 2020, est vraiment classé comme, enfin, par exemple, par les Inrock, les Inrockuptibles, comme le meilleur album de l'année. Et effectivement, je ne saurais trop vous conseiller d'écouter cet album des Strokes, The New Abnormal, qui est vraiment un bijou, qui est magnifique, quoi.
Ouais, en tout cas, c'était très sympathique aussi, ouais. En même temps.
Ouais.
Donc, on est parti pour la suite. Attention. Yes.
Parle plus loin du micro. Parlons plus loin du micro, nous la remettons pas vite fait.
Il s'énerve.
Donc on est bien sur les séries, c'est ça.
Hein, c'est ça. D'ailleurs, Pablo Magnum arrive avec sa moustache et sa Ferrari. Il va nous présenter quoi?
Eh bien, True Detective saison 3, puisque je vous avais déjà présenté True Detective saison 1, puis saison 2. Et là, je termine effectivement sur la saison 3. Donc effectivement, True Detective, je rappelle, est une anthologie télévisée américaine. Anthologie veut dire que les saisons sont indépendantes, hein, comme dans Black Mirror, par exemple. La série a été créée et écrite par Nick Pizzolatto. Et la troisième saison fut diffusée en 2019 sur HBO aux États-Unis et en France sur OCS d'abord, puis sur Canal+. True Detective s'est vite imposé parmi la critique et le public comme une série culte. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de la saison 1, c'était dans la chronique du 12 janvier, et puis saison 2, c'était dans la chronique il y a 15 jours, du 9 février, pour être précis. Je vous lis le synopsis. La série suit deux policiers, Wayne Hayes, interprété par Mahershala Ali, et Roland West, Stephen Dorff, de la police d'État d'Arkansas, enquêtant sur la disparition des enfants Purcell dans les monts Ozarks, en Arkansas. En 1980, la police de l'Arkansas est mobilisée dans la région des Ozarks suite à la disparition de deux enfants. En apparence banale, l'enquête se révèle longue et très complexe. Les événements montrés se déroulent sur trois chronologies différentes. D'abord en 1980, au moment de la disparition, puis ensuite, 10 ans après, en 1990, lors d'un rebondissement rouvrant l'enquête. Et en 2015, à l'occasion d'un documentaire, Wayne Hayes, alors policier retraité, est toujours hanté par cette affaire et se remémore l'enquête. Cette fois, on laisse derrière la saison 2, très controversée. Et on retrouve dans cette saison 3 l'esprit de la première saison qui avait fait le succès de la série. L'esprit et les ingrédients. L'ambiance inquiétante dans cette contrée perdue, reculée de l'Arkansas, le jeu excellent des acteurs, l'originalité de la musique et la finesse d'écriture du scénario. Nous avons affaire à deux enquêteurs acharnés, des vrais détectives, abîmés par la vie, souvent écorchés par les choix qu'ils ont dû faire. Ils sont certes hantés par l'affaire qui les ronge comme un cancer, qui empiète sur leur vie privée, mais qui ne lâchent rien, même face à la résistance passive de leur hiérarchie ou encore face à la corruption du système. Deux anti-héros, donc, en quête de rédemption. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit en fait d'un duo d'avant-scène qui cache un deuxième duo de femmes dans la coulisse de l'action, puisque la femme de Wayne va elle-même aussi enquêter en qualité d'écrivaine et publier des livres sur l'affaire. Et qu'en 2015, une jeune journaliste avec une équipe de documentaristes vient interviewer Wayne qui a repris l'affaire en main. Wayne Hayes, je vous présente un petit peu les personnages. Wayne Hayes est un vétéran de la guerre du Vietnam. Il était pisteur, une sorte d'éclaireur dans les forces spéciales, chargé de traquer l'ennemi jusque dans la jungle, chargé de faire le sale boulot, commettre des meurtres, souvent livré seul face à lui-même. C'est donc un chasseur et pisteur hors pair, mais qui trimballe avec lui tous ses traumas, qui fait avancer l'enquête grâce à ses découvertes. Il a une forte personnalité, il est intelligent, il est dangereux. Ses collègues, d'ailleurs, le tiennent à distance. Son seul défaut, entre guillemets, c'est qu'il est noir dans un état du sud américain en 1980. On sent bien l'ambiance raciste, même non dite, qui pèse sur lui et qui imprègne les décisions de sa hiérarchie à son égard. Plus tard, et plus vieux, en 2015, troisième temporalité de l'action, il est atteint de pertes de mémoire importantes, ce qui va compliquer sa reprise de l'affaire criminelle qu'il a laissée en suspens. Il lui faudra alors relire des passages du livre de sa femme, des livres que sa femme a consacrés à l'enquête. Son investigation est aussi une recherche de la mémoire dans ce qu'elle comporte de vital. Cette recherche confirme ce que disait Henri Bergson à propos de la mémoire, qu'elle est la condition de toute conscience. Sans mémoire, pas de conscience qui tienne. Son coéquipier s'appelle Roland West. Il est brutal et pragmatique. Il n'a certes pas la finesse d'analyse de Wayne, mais il a la loyauté et la même ténacité. Contrairement à Wayne, il est prêt à accepter les compromis, ou plutôt les petits arrangements de sa hiérarchie. Il restera fidèle à leur amitié et sera un soutien nécessaire à certains rebondissements de l'enquête. Il est légèrement en retrait, mais c'est un adjuvant, efficace. Oui, adjuvant, j'étais encore sur les généraux. Enfin, il faut évoquer...
C'est pas ma guerre, mon colonel.
Voilà, c'est pas ma guerre. Enfin, il faut évoquer le rôle des femmes. Dans l'ombre, certes, mais fondamental. Le personnage de la jeune journaliste est peu développé. En revanche, celui d'Amalia Reardon, interprété par Carmen Ejogo, que vous avez vu dans Les Animaux Fantastiques. Elle est remarquable. Elle est enseignante de littérature à l'école d'Arkansas, où étaient scolarisés les deux jeunes enfants disparus. Elle se révèle être aussi une true détective, qui écrit sur l'affaire et a des intuitions fulgurantes qui vont aider les enquêteurs officiels. Bref, True Detective saison 3, un petit bijou à ne pas manquer. Merci de votre écoute.
Et c'est parti.
Et je vous propose pour un Cassandra Wilson Death Letter sur Band Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Good old boy, lay hell until judgment day.
douceur pour terminer là-dessus.
Oui, c'était donc Cassandra Wilson, Death Letter, et donc c'était le générique de la saison 3 de True Detective. Donc vraiment, je vous laisse kiffer.
C'est une belle présentation qui donne bien envie encore de regarder une bonne série, comme on peut dire.
Ouais.
Alors, moi, je te propose d'écouter un autre morceau de musique, là, franchement, pour faire honneur, finalement, et plaisir à Sébastien, qui nous a proposé éventuellement de regarder ça.
Ouais.
Le titre, c'est « Besoin de chanter ».
Oui. Non, c'est tiré d'un film.
C'est tiré d'un film, oui, effectivement, Les Vedettes. Alors, je pense qu'apparemment, il nous a dit qu'on va bien s'amuser avec.
Ça marche. Ben merci Seb, spécial dédicace.
Spécial dédicace, si ça veut se partir, bien sûr. Mais j'aime bien quand ça met 3 jours à gérer.
Ça va y aller, ça va y aller. C'est...
Ça y est, c'est parti.
C'est parti. Vous êtes bien dans Mafia, les gars.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Devant mon café noir, ou sur le trottoir, trop de rêves illusoires, au rage, au désespoir. Je ne fais qu'y penser, je veux briser mes chaînes. Je me sens prisonnier, je veux changer de chaîne. Bientôt je serai chanteur, des coups piperont mes cœurs. On connaîtra mes chansons par cœur. Oui, bientôt, je serai chanteur. Bientôt, je serai chanteur. J'irai au journal de 20h et pas celui de 13h. Car bientôt, je serai chanteur. Je veux briser mes chaînes. Je me sens prisonnier. Je veux changer de chaîne.
Changer de chaîne.
Bientôt je serai chanteur. Des groupies font mes cœurs. On connaîtra mes chansons par cœur. Oui, bientôt je serai chanteur.
Bientôt je serai chanteur.
Journal de 20h
et pas celui de 13h.
Car bientôt je serai chanteur.
Bah donc spécial dédicace à Seb et à Paul.
En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ça là, parce que là on rigole bien. Effectivement, il faut voir le
j'ai
clip.
J'ai l'impression qu'il faut le prendre au second degré quand même.
Second, troisième, quatrième, cinquième degré.
C'est ça, c'est ça. Mais manifestement, je pense qu'il va nous parler la prochaine fois du film Les Vedettes.
Hein. Oui, bah c'est le palmacho de toute façon pour ceux qui l'ont pas reconnu. Donc voilà.
Clair.
Bon, on part un petit peu sur de la lecture,
de la littérature.
De la littérature.
Let's go. Alors toi, t'as un petit roman historique.
Un petit roman historique. Et puis, pour l'introduire, je pense que ça va vous rappeler 2-3 petites choses aussi en même temps.
Cool.
Attends, hop, 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 hop. Je crois pas que ce soit le bon morceau. Qu'est-ce qui m'a fait ? Si, c'est le bon morceau.
C'était ça.
Je m'en souvenais plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je me suis trompé de morceau.
C'est pas grave, c'est
pas ça, ça va le faire.
Il semblait Dieu.
Ah ben voilà,
plus adapté à ce dont tu allais parler.
Voilà, je recommence.
Camelot. Camelot.
It's only a model.
Shh. Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot.
Et oui, pour ceux qui ont reconnu un petit peu, c'est la chanson des chevaliers de Sacré Graal dans The Monty Python. Tout ça pour vous présenter donc le nouveau livre de Jean Tellet, Azincourt par temps de pluie. Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue, bien sûr. Ce 25 octobre 1415, il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent qu'à rentrer chez eux se retrouvent pris au piège par des Français en surnom, bottés, casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant fièrement leur étendard. Tout ce que la cour de France compte d'aristocrates se précipite pour participer à la curée. Ils ont bien l'intention de se couvrir de gloire dans la grande tradition de chevalerie française. Aucun n'en reviendra vivant. Toutes les armées du monde ont un jour ou l'autre pris la pâtée, mais pour un désastre de cette ampleur, un seul mot s'impose: grandiose. Et effectivement, la bataille d'Azincourt, on sait qu'on s'est pris une belle platée, hein, pour pas dire... Hein, voilà. Mais je trouve que la description de cette bataille faite par Jean Tellet, alors là, c'est du grand art. C'est, voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire en 5 leçons. Eh bien, on le fait, et puis ben, on comprend pas pourquoi finalement on a perdu. Donc moi, je vous conseille de lire justement ce nouveau livre de Jean Tellet. Hein. Bien sûr, on retrouve la verbe et le verbe de Jean Tellet. Et donc, on découvre aussi plein de choses sur Azincourt par temps de pluie aux éditions Mialet Barreau. Et puis voilà, c'est 208 pages de bonheur.
C'est top.
Cool.
Bah écoute, alors, Azincourt, et moi je vais vous présenter du coup un polar qui s'appelle Mon Territoire. Mon Territoire de Tess Sharp. Alors je vous lis le résumé. À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère au même âge. Tiens, il y a peut-être une petite
musique. Ouais, alors attends, bouge pas,
Donc je recommence. À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère. Au même âge, elle a vu son père Duke tuer un homme. Rien de très étonnant de la part de ce baron de la drogue, connu dans tout le nord de la Californie pour sa brutalité, qui élève sa fille pour qu'elle lui succède. Mais le jour où Harley est en passe de reprendre les rênes de l'empire familial, elle décide de faire des choses à sa manière. De faire les choses à sa manière même. Même si cela signifie quitter le chemin tracé par son père. Adolescente, Harley s'occupe du Ruby, un foyer pour femmes en détresse installé dans un motel, fondé des années plus tôt par sa mère. Victime de violences conjugales, d'addictions diverses, fille-mère, toutes y rentrent, toutes y s'y sentent en sécurité, protégées par le nom et la réputation des McKenna. Voilà pour le résumé. Donc c'est un méga coup de cœur pour ce thriller, puissant et addictif. Harley McKenna est sans doute la meilleure héroïne badass depuis Lisbeth Salander, qui était dans la saga Millennium, rappelez-vous. Elle tue, elle est violente, elle manipule. Mais on a quand même envie de la prendre dans nos bras pour tout lui pardonner. Tess Sharp a un magnifique sens du rythme et déroule une trame admirablement bien construite. La narration est un emboîtement entre l'intrigue et la mise en place du plan de Harley. Mais aussi entre chaque chapitre, le récit d'un épisode de son passé qui éclaire l'action présente ou à venir. On remonte ainsi le fil du temps dans un mouvement rétrospectif et introspectif qui nous en apprend toujours plus sur la personnalité de l'héroïne. C'est enfin un roman de country noir, c'est-à-dire un polar qui se déroule non pas en ville comme souvent, mais dans la campagne paumée, comme dans Fargo par exemple, que vous pouvez voir comme série. C'est-à-dire un polar qui se passe dans l'Amérique profonde du nord de la Californie. Un monde brut, assez sauvage, où on est proche de la nature, mais aussi où les instincts sont mal dégrossis, où ils s'expriment de façon violente, parfois perverse. Et ce roman est d'autant plus singulier qu'il met en scène la voix d'une jeune fille de 22 ans qui déroule peu à peu son histoire, une histoire en forme de piège dont elle cherche, coûte que coûte, à se délivrer. Voilà, donc je vous conseille absolument d'aller lire Mon territoire de Tess Sharpe. C'est un film que vous trouvez, un livre que vous trouvez qui fait 560 pages, mais qui vous tiendra en haleine d'un bout à l'autre. Je vous remercie de votre écoute.
Et moi, je te propose pour terminer, là, parce que là, c'est bientôt terminé, là, justement, l'émission, d'écouter un dernier petit morceau de musique, et puis on va faire un petit coucou. C'est un morceau que tu nous proposes, Fauve Voyou feat. Giorgio.
Alors oui, Fauve, on va finir puissamment, les gars. Attendez-vous à ce que ça charcle un peu. Vous êtes dans Bande Geek Mafia, c'est normal.
Eh, tout à fait.
Sur Radio G, c'est un point.
C'est la radio qui fait le point.
Et arrête de me regarder comme ça, t'as rien écouté, t'as rien compris. Comment je dois te dire pour que ça imprime? Écoute, pauvre conne, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une belle personne. Je suis une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça a fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles, j'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais. Et quand bien même de toute façon ici y a pas de deuxième chance, on n'efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu, c'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit, quand les gens bien comme toi sont endormis. C'est marqué en rouge, tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. Seul à poil face à ton reflet, avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Non, crois-moi, tu veux vraiment pas que j'aille plus loin, parce qu'au mieux ça t'empêchera de dormir. Au pire, ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant. Suis-moi comme le choléra. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cachetons et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis, si ça prend toute une vie. Pardon, que je parle un peu moins fort. Ah, on vous dérange en fait, merde. Et bah si on te dérange, tu te casses. Ou sinon, tu fermes ta gueule, tu regardes ton assiette. Et tu nous fous la paix 5 minutes le temps que je termine. Tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne qu'on te coince comme ça devant tout le monde? Bah ouais, c'est chiant, je comprends mon gars. Mais dis-toi que t'as de la chance, toi. Toi, t'es né bien comme il faut, t'es solide, t'es cohérent. Tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants. Tu dors bien sur tes deux oreilles, t'es un bon petit français. T'es beau, t'es bien. Comme un magazine de déco, comme une maison, t'es moi. Ça t'arrive.
Et voilà, c'était votre émission Bang Geek Mafia. Votre émission,
Culture. Tous les 15 jours.
Donc,
semaine paire,
eh bien.
Et donc, on arrive à la fin. Bah, merci à toi, Seb.
Oui, merci.
Et merci puis, aux auditeurs. Et aux
merci
auditeurs.
À tous. Super, et puis, à bientôt.
À bientôt. Ciao.
Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords.